En ce 12 mai, à Rencontre spirituelle, c'est l'anniversaire du décès d'une Irlandaise, une laïque, Edel Quinn, qui est vénérable et qui est vraiment, comme dit le cardinal Sunens dans une très belle vie qu'il a écrite d'elle, une héroïne de l'apostolat. Elle avait été envoyée en Afrique par la Légion de Marie et elle est morte toute jeune. Elle n'avait que, mon Dieu, 36-37 ans. Mais c'est une femme qui est vraiment très attachante parce qu'elle était faible, une santé pas très forte, mais un très beau regard, une femme très attirante et surtout une femme habitée. C'était pas, comme je dis parfois, un zombie. Au microphone, Raymond Beaugrand Champagne. C'est aussi aujourd'hui l'anniversaire des apparitions de la Sainte Vierge à Fatima, hein, au Portugal. En 1917, l'an dernier, à pareille date, je vous ai fait une émission consacrée à Fatima. C'est donc le 80e anniversaire des apparitions de la Vierge à Fatima. Et Edel Quinn était membre très active de la Légion de Marie. Sa spiritualité mariale était très vigoureuse, mais par contre profondément centrée sur l'Eucharistie et sur Jésus-Christ. Elle est née, Edel Quinn, j'appelle son nom au cas où vous auriez de la difficulté, E-D-E-L, Edel, Edel Quinn, Q-U-I-2-N, est née en Irlande, véritable irlandaise, en 1907. Le jour de l'exaltation de la Sainte Croix, c'est quel jour ça, le 14 septembre? On sait ça, hein? Et son père, qui est un employé de banque, entraîne sa famille à déménager à plusieurs reprises parce qu'on le transfère de banque en banque. Et la jeunesse d'Edel s'en ressent un peu. Ça l'habitue, au fond, à se détacher. Et partout, bien, la fille de M. Quinn, Edel, se fait remarquer par son intelligence précoce. Elle a une piété vraie, dès son plus jeune âge. Et sa générosité, sa gaieté lui sont comme naturelles. Dès son jeune âge, la maladie s'acharne contre Edel. Cet état un peu maladif va l'empêcher d'ailleurs d'entrer un peu plus tard chez les Clarisses fondées, comme on sait tous, par Sainte-Claire d'Assise. Les Clarisses, surtout qui à l'époque vivaient une vie extrêmement rigoureuse. On dit que même en Irlande, elle pouvait aller nu-pieds ou à tout le moins en sandales sur des pierres froides car ça n'était pas chauffé. On n'y mangeait pas grand-chose, j'ai l'impression. Et on était très exigeants. C'était une spiritualité qui a beaucoup changé aujourd'hui et dans les monastères de Clarisse, on est plus prudent par rapport à la santé depuis surtout le concile. À 18 ans, elle est sténographe dactylo, mais on ne peut pas se contenter de cela, hein, s'y ennuie mortellement. Elle entre, quelques années plus tard, dans une association laïque, la Légion de Marie. C'est tout de suite le coup de foudre pour cette organisation. Elle a senti le désir, d'ailleurs, de consacrer sa vie à Dieu. Un peu, si on peut dire, mais c'est pas trop exagéré que de comparer ça à Marie elle-même, la mère de Jésus, qui au fond est un modèle pour les membres de la Légion de Marie, parce que Marie s'est faite la servante du Seigneur, comme elle le dit dans le très beau Magnificat. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la servante du Seigneur? On n'y pense pas assez. C'est quelqu'un qui est tout dévoué à Dieu, hein? Ce Dieu qui est à la fois le Seigneur de l'univers et le Seigneur de nos âmes, celui qui nous habite jusqu'au tréfonds de nous-mêmes, là où il est plus nous-mêmes que nous. En 1929, à 22 ans, Ethel Quinn devient présidente d'un groupement local de la Légion de Marie. On appelle ça un présidium. Ils ont des noms qui viennent de l'ancienne Légion romaine, l'ancienne région romaine qui était composée, comme on peut le lire dans les textes très anciens de l'Évangile et d'autres, il y avait des centurions, des cohortes, etc., etc. Alors, ils ont gardé certains mots comme ça, et elle est donc présidente d'un présidium, quoi. Et ce groupement, sous le vocable de Notre-Dame des pêcheurs, je dis bien Notre-Dame des pêcheurs, pourquoi? C'est parce que ce groupement avait la mission, imaginez, de recruter ses membres parmi les filles de la rue, en d'autres termes les prostituées, de la ville de Dublin, qui est la capitale, comme vous savez, de l'Irlande. Une ville un peu grise, mais où la population est très, très attachante, Dublin. Et cet apostolat, il faut bien se le rappeler, hein, c'est pas d'aujourd'hui. D'abord, un des cardinaux les plus importants de cette Église, cardinal Jean Danielou, qui est décédé un 20 mai, est décédé chez une prostituée car il s'en occupait. On en a fait tout un plat autour du cardinal Danielou. Je vous ai fait une émission qui a bouleversé beaucoup de gens, car j'ai connu le cardinal Danielou. Je m'en excuse, il y a des gens qui n'aiment pas que je dise que je les ai connus, mais je l'ai connu, je l'ai bien connu. Il est mort le 20 mai et j'ai fait l'émission l'an dernier, à pareille date, en 1996. Ça rappelle aussi le film Les anges du péché, hein, des dominicaines qui se recrutent chez les prostituées. Vous avez peut-être vu ça à l'écran. Recruter ses membres parmi les filles de la rue, c'était pour elle une audace, pour Ethel Quinn. Mais c'est une audace qui est peut-être même téméraire. Pourtant, on ne doit jamais oublier que Jésus, durant sa vie publique, en a fait autant. Ses rencontres avec les pécheresses Marie-Madeleine, la Samaritaine, avec les publicains, les collecteurs d'impôts qui étaient tant détestés, il va s'achever, il appelle Lévi, qui devient de ses 12 apôtres. Ce genre d'apostolat a attiré à Jésus ce reproche des gens bien-pensants, et il mange avec les publicains et les pécheurs, en d'autres termes, et les pécheresses. Alors on confie à Ethel Quinn la tâche, donc, de ramasser des prostituées. Un peu comme Guy Gilbert, qui est à Montréal, c'est aussi l'abbé Guy Gilbert, qui a ramassé des prostituées, des jeunes prostituées mâles et des garçons délinquants, des garçons de toutes sortes, pour les transformer, puis il y en a transformé par centaines. Hein. Quel prêtre, vous savez, ce prêtre avec ses grands cheveux, son blouson de cuir, que j'avais fait connaître, heureusement, à l'émission Rencontre à la télévision, par une entrevue qu'on avait faite chez lui à Paris avec l'abbé Marcel Brisebois. Alors Ethel Quinn n'a donc qu'à suivre les consignes qui lui sont données dans le manuel même de la Légion de Marie. Et on bossit ses consignes. Et cette action s'appuie, c'est le texte, sur une foi inébranlable en Dieu et sur l'amour qu'il porte à ses enfants. Alors, à l'exemple de saint Paul qui écrit aux Corinthiens, dans la deuxième aux Corinthiens, de ne pas se dérober au labeur et aux païens, alors le ou la légionnaire de Marie tâche d'établir avec le prochain un contact personnel d'amour et de sympathie. Hein. J'ouvre les guillemets. Il ne fait pas une visite ou une rencontre de supérieur à inférieur, ni d'égal à égal, mais d'inférieur à supérieur, de serviteur à maître. C'est dans le texte de la Légion de Marie, à la page 228. C'est assez étonnant, ce texte. Et puis, dans les cas où parfois l'on dit qu'il n'y a rien à faire, ben la Légion de Marie fait appel à l'effort, à tout prix, l'effort à tout prix, et en toutes circonstances. Et la page suivante, on dit, tout au moins pour un geste quelconque et non pas seulement par une prière. Pas se contenter simplement de prier. Dans la Légion de Marie, on veut être actif et poser des gestes. Edel Quinn avoue un jour à une amie que c'est pas facile, et même que ça lui déplaît, ces visites-là. Elle dit, j'ai eu deux visites à faire. Quel horrible supplice. Je déteste ces visites. Et elle ajoute, toutes mes soirées se passent à faire des visites. Toutes ces soirées. Alors, il n'était pas tenu d'y aller plus d'une fois par semaine. La Légion de Marie ne demande à ses membres actifs que 2 heures d'apostolat par semaine. Hein? On voit ça à la page 117. C'est donc dire que même si elle n'aimait pas cela, bien, Edel Quinn le faisait quand même. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi. Et une foi totale. Hein? Il faut lire sa vie par le cardinal Sunens, publié chez Desclée de Brouwer il y a de nombreuses années. Moi, j'ai une édition de 1958. C'est paru pour la première fois en 1952. En 58, ils étaient déjà rendus au 22e mille. Hein? Ça a été très, très lu. Je vous rappelle, comme anecdote, une première visite d'Edel Quinn avec sa compagne d'expérience à dans un de ses bordels, des lupanards, comme on dit en France. Voici le texte. À l'entrée, un perroquet bien stylé les accueille par ces mots. Fichez le camp, espèce de, puis je vous dis pas le mot. Dès que Nora O'Mahony, une des dames locataires, là, les madames, comme on dit, entend le perroquet. Elle saute du lit, leur court droit dessus et les mains menaçantes, tout en dominant Edel de toute sa taille, déverse sur les deux visiteuses un torrent d'insultes. Très calmement, Edel l'aborde. Les mains de sa compagne Nora s'abaisse, et une conversation s'engage de plus en plus amicale, chose étrange. Et lorsqu'Edel quitte la maison, elle dit à Madame Nora O'Mahony, en souriant, « God bless you, que Dieu vous bénisse, je reviendrai dimanche prochain. » La promesse fut tenue sans résultat apparent, raconte l'histoire. Et des légionnaires dirent à Edel qu'elle perdait son temps. Mais elle leur a répliqué que c'était là une pensée défaitiste, à chasser bien vite, et elle a continué son apostolat. Et dans un garni, comme on dit, bien connu, littéralement bordé de street girls, il devait y en avoir au moins 20 entassées dans quelques chambres infectes. Edel parle à chacune d'elles séparément, avec la plus grande tendresse. Puis, elle réussit à en amener quelques-unes à la messe, et depuis, Edel persuade beaucoup de filles de quitter leur vie de péché. De péché, et surtout, de désespoir. De désespoir. Et d'entrer à Santa Maria, c'est le nom de l'endroit où elle est réunie. Seul le Seigneur sait à quel prix elle obtient un tel résultat. Parce que Santa Maria, c'est ce foyer que les autorités de la Légion de Marie ont ouvert pour les femmes décidées à changer de vie. Comme il n'y a pas alors d'allocation gouvernementale pour ces femmes itinérantes, la Légion de Marie voit que ces femmes ne manquent de rien. Alors les filles, gagnées par la bonté attirante, puis on peut dire conquérante, d'Edel Quinn, la suivent à Santa Maria. Et bientôt, Edel Quinn y passe la plupart de ses soirées. Et comme les filles l'aiment, c'est leur bout en train par sa musique, la danse, les spectacles. Hein, c'est une femme dynamique, malgré sa santé qui est pas très forte. Alors ces femmes-là réclament toutes qu'elle reste un peu plus longtemps chaque fois qu'elle y va. Et parfois, elle passe une fin de semaine avec elle. Mais trop, c'est trop. Hein. Toute la journée au bureau, les soirées à Santa Maria, eh bien, Edel Quinn tombe malade. On découvre qu'elle souffre de tuberculose avancée. Ça, c'était en 1932, au moment où elle s'apprêtait à entrer justement au couvent des Clarisses, comme on dit en Angleterre ou en Irlande, les Poor Clares, de Belfast, dans le nord de l'Irlande. Et le 5 février, bien, elle se rend au sanatorium de Newcastle, où elle va séjourner 18 mois, mais sans espoir de guérison. Elle finit par quitter le sanatorium parce qu'elle trouve que ça coûte trop cher pour sa famille et depuis, elle ne peut recevoir la Sainte Communion aussi souvent qu'elle le désire. Et alors donc, on voit qu'elle est au sanatorium. Elle trouve que ça coûte trop cher pour sa famille. Elle ne veut pas recevoir la communion, justement. Ave verum corpus. Salut, vrai corps du Christ. Et, à l'exemple de sa mère, c'est une assidue, n'est-ce pas, de la messe quotidienne, tôt le matin à cette époque. Et Adelquin a pris très jeune l'habitude d'imiter sa mère. C'est un peu la raison pour laquelle elle souffre de ne pouvoir recevoir chaque jour le corps du Christ, c'est-à-dire Jésus vivant, qu'elle a appris à aimer plus que tout. À cette période, sa santé semble s'améliorer, mais rapidement, elle est pleinement absorbée par son travail au bureau. Rien n'échappe à son observation. Et alors, on dirait que le succès de la firme française qui l'emploie, c'est le plus grand intérêt de sa vie. Alors son employeur, M. Pierre, l'estime beaucoup. Un jour, elle lui dit, « Je pense que cela m'aiderait dans mon travail d'apprendre le français, puisque c'est une firme française. » Alors son employeur sourit, puis lui répond, « C'est pas un jeu d'enfant, hein, ma langue, la langue française, est aussi capricieuse qu'une femme. » Alors on sent qu'il a un peu d'intérêt pour elle. Il lui présente donc un livre colorié au début, « Le français dans la joie ». Et il lui dit, « Si ce n'est pas tout à fait vrai, qu'on peut apprendre le français dans la joie, pour une Anglaise surtout, une anglophone plutôt, puisqu'elle est irlandaise, pourriez-vous apprendre ma langue sans verser trop de larmes ?» Et tous deux se mettent à rire de cet humour d'autrefois. Et plus tard, à l'île Maurice, vous connaissez l'île Maurice? Il y a des Mauriciens ici à Montréal, cette île qui est près de Madagascar, disons, dans l'océan Indien, au sud de l'Afrique, là. Une île à la fois française et anglaise. Mais plus tard, elle va aller à l'île Maurice, puis elle sera heureuse, justement, d'avoir appris notre langue. Pour Edo, travailler avec son employeur, ce monsieur Pierre, c'était un grand plaisir, un réel plaisir. Elle le respecte d'abord, puis elle l'admire. Elle le considère comme son supérieur en tout point, parce qu'il a une éducation très raffinée. C'est un homme de grande culture, c'est un homme dont la bonté est naturelle, comme pour Adelquin, qui est bonne naturellement et gaie naturellement. Et donc ce monsieur Pierre lui plaît beaucoup. De ce côté, monsieur Pierre semble absolument heureux, évidemment, de partager avec elle ses connaissances. Alors parfois c'est un livre, parfois ça va être une reproduction d'une statue ou une peinture favorite. Faut bien se replacer à l'époque. Je me souviens que les reproductions, en particulier en couleur, étaient rares et on publiait ça séparément dans des grands portfolios, là. Et mon frère Jules en achetait justement dans les années 40 et je me souviens que ça nous plaisait beaucoup à la maison et comme ça on avait des Bonnard, Vuillard, etc., toutes sortes de peintres d'aujourd'hui, des peintres du 20e siècle. Et on pouvait admirer ces choses-là. J'en avais apporté en 1944 à Saint-Benoît-du-Lac. J'en avais fait des expositions aux noviciats dans le temps pour initier les novices à l'art contemporain, l'art moderne. Alors, dans son fort intérieur, ce monsieur Pierre, ce Français, a ses propres pensées. Hein. Mais pourtant, comme il l'a reconnu plus tard, c'est seulement de l'amitié que j'éprouve pour elle à ce moment-là. De l'amitié. Et elle me garde pure et jeune de cœur. Elle ne parle jamais de religion, mais elle me montre Dieu dans ses yeux. Alors c'est lui, n'est-ce pas, qui va lui parler de religion le premier. Il y a en Adelquin quelque chose qui fait taire ses doutes et met en déroute tous les arguments qu'il a contre la foi en un Dieu personnel et aimant. Comment Dieu peut-il nous aimer quand il y a tant de souffrances? Alors il n'a pas l'idée d'appeler cela piété, ça lui semble un terme sans saveur. Non, c'est un charme spirituel. C'est une qualité absolument mystérieuse, qui se dégage d'Adele Quinn, comme disons, pour prendre une comparaison un peu périmée, c'est comme le parfum d'une fleur, quoi. Et quand il la questionne sur les sujets religieux, elle parle pas d'abondance, non. C'est pas une... Elle verbalise pas comme Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, non. C'est entre les mots, hein. C'est le silence chez elle qui parle. Une fois, dans une de ses conversations, elle lui dit « C'est pas pour rire que Dieu nous a aimés. C'est pas pour rire que Dieu nous a aimés. » Alors, ce monsieur Pierre médite là-dessus un long moment. À mesure que les mois passent, l'amitié s'approfondit entre eux. Alors, au bureau, là, les tâches d'Edil deviennent de plus en plus celles d'un associé plutôt que celles d'une simple secrétaire. Un jour, elle découvre que le montant de son chèque est considérablement plus élevé que ce qu'elle a gagné jusque-là. Là. Et ce soir-là, bien, elle rentre à la maison avec des ailes au talon parce que son mot de remerciement pour son patron, c'est celui-ci. « Personnellement, dit-elle, je ne me réjouirais pas d'une augmentation si cela ne signifiait qu'un argent de poche supplémentaire, mais dans mon cas, cela fait une différence pour la famille, et vous ne pouvez pas imaginer quel plaisir me fait cette augmentation dans ces conditions. » Ça lui a permis d'aider son père et sa mère, et ses frères et sœurs. Et comme le travail au bureau devient de plus en plus astreignant, Monsieur Pierre commence à s'inquiéter de la santé d'Adou. Un jour, il lui dit, « Vous restez toujours au-delà de l'heure. Je veux me procurer quelqu'un pour vous aider. » Alors Adou réplique en riant, « Ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne crois pas que je mourrai jamais de surménage. » Alors, il va utiliser les services de sa sœur à Adou aussi. Un soir, chez ses parents, Adou Quinn annonce une grande nouvelle. Monsieur Pierre retourne en France après un séjour de 6 ans en Irlande, loin de sa famille. Alors Monsieur Quinn s'inquiète. Qui va le remplacer pour les affaires? Et Adèle lui répond avec fierté. Bien, votre propre fille va prendre une bonne partie de la direction. Et n'oubliez pas que depuis que Leslie, c'est sa sœur, est avec nous, elle a pris de plus en plus de mon travail. Alors, Madame Quinn se pose une question typique de la part d'une mère. Vous savez, les mères sentent qu'il y a des questions amoureuses et de mariage. Alors, Pierre qui part, il va te manquer, Edel. Elle dit, oui, maman, beaucoup. Elle dit, j'ai pris tant de choses de lui en dehors des affaires. Je veux dire, c'est un ami si bon. Alors, Edel écrit quelques lettres à Monsieur Pierre. Il les reçoit avec joie. Non, il ne doit pas brusquer les choses, évidemment, et dans un mois ou deux, il sait qu'il va retourner pour compléter le transfert de ses affaires. Et alors, peut-être, là... Alors, il y a donc un dîner avec Adou Quinn dans un restaurant tranquille, et tel est le projet de Monsieur Pierre. Et le jour tant attendu arrive, et en tête à tête avec elle, de nouveau, dans le coin le plus tranquille du restaurant. On peut dire que peut-être jamais la langue anglaise n'a paru à Pierre si épineuse, et enfin, il rassemble son courage et lui dit tout simplement... « Je vous aime, Adou. Oui, voulez-vous m'épouser ?» Alors là, elle est confuse. Elle ressent le chagrin. Ce chagrin qu'on peut ressentir en profondeur quand on sait qu'on va blesser quelqu'un. Alors elle lui dit « Je ne peux pas, voyez-vous. » Alors elle hésite, elle était capable de trouver les mots, mais il faut bien qu'elle lui dise la vérité, même si cela mène à la révélation de son secret. Elle dit, « Mon cœur n'est pas libre de se donner en mariage, Pierre, je l'ai donné à Dieu pour lui seul. Il y a longtemps, et je comptais entrer dans un couvent, mais mes parents, voyez-vous, puis la santé, il avait besoin de mon aide, mes parents, alors j'attends simplement qu'ils puissent me laisser partir. Ce ne sera pas long maintenant. Essayez de comprendre, et pardonnez-moi de vous blesser comme ça. » Et quelques jours plus tard, eh bien, Pierre quitte l'Irlande pour la dernière fois. Alors, donc... Elle a été demandée en mariage, elle a dû refuser puisqu'elle est consacrée, intérieurement. Et pour ses vacances annuelles de 1936, Adele Quinn compte passer ses 2 semaines au pays de Galles, au cœur de l'Angleterre, quoi. Ben, ça fait pas partie vraiment de l'Angleterre, c'est un pays, c'est des Gallois qui parlent le gallois. Et comme il est question d'une mission légionnaire, la Légion de Marie, toute rayonnante d'ardeur, là... Elle expose ses plans à un monsieur que vous connaissez peut-être, Frank Duff. Sa cause de béatification est introduite, lui aussi, à Rome. Ainsi que un autre membre de la Légion de Marie, Alfie Lamb, qui lui est mort à 26 ans. Alors, Frank Duff, qui est président du Comitium, c'est-à-dire le Conseil central, j'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient des noms latins qui venaient de la Légion romaine. Hein. Alors, il est président du Comitium, Conseil central de la Légion de Marie, et Frank Duff lui dit, « Edel, voyons, vous savez bien que vous ne pouvez faire cela. C'est le travail le plus harassant que vous pourriez prendre. » Et Edel le supplie, « Laissez-moi y aller, ce sont les gens... comme vous qui me tuent avec toutes leurs précautions. Vous me tenez enfermé dans un cercueil. Voyez le caractère irlandais. Elle y va pas de main morte et c'est pas la seule réplique qu'on a d'elle. On en a toute une série. Vous me tenez enfermé dans un cercueil. Alors, elle a un caractère d'irlandaise, quoi. Rien ne peut l'arrêter. Le tempérament de sainte aussi. Tout ce qu'on a pu faire, c'était de l'envoyer avec Mademoiselle Wales, son amie, qui promet de garder sur elle un œil vigilant, puis de la ramener à la maison au premier signe inquiétant. Mais la malade revient après 2 semaines d'un labeur très dur. Elle déborde d'entrain. Selon toute apparence, elle est reposée, même si elle a fourni un effort énorme. Reposée, puis aspirant à faire encore plus, comme on dit. Alors Frank Duff a appris que les médecins donnent à Edel un an à vivre. Elle a maintenant 28 ans. Un climat plus ensoleillé pourrait peut-être prolonger une vie qui leur semble à tous bien précieuse. Et Frank Duff lui demande à brûle pour point, consentiriez-vous à partir comme employé pour l'Afrique du centre-est? On pense que le climat serait meilleur. Hein? Elle accepte tout de suite avec enthousiasme. On a, je vous fais le résumé de la réunion, une réunion du Concilium qui étudie pour l'envoi en Afrique de cette chère Mademoiselle Edel Quinn, qui est débattue parce qu'on se demande vraiment si on doit l'envoyer parmi la foule. Edel se lève à un moment donné et elle dit « Toutes les difficultés m'ont été bien expliquées. D'accord. Je sais ce qui m'attend. Je n'ai aucune envie de me rendre à un pique-nique, soyez sûr. » Alors, là, on éclate de rire un peu. Pique-nique, oui, oui. Là, le président du Concilium lance une boutade et dit « En tout cas, le pique-nique ne sera pas bien substantiel, parce qu'elle n'est pas très grasse, n'est-ce pas? Loin de là, alors, les bons Irlandais rigolent. » Et par une réplique humoristique, eh bien, de son pique-nique, là, Edel avait gagné l'auditoire, alors c'est un vote unanime, elle triomphe comme par miracle, et l'envoi d'Edel Quinn, c'est la réponse du Concilium Legionis, le Concilium de la Légion. Concilium Legionis, à la demande expresse de Monseigneur F. Hernan, vicaire apostolique du Zanzibar. Elle a l'appui de Monseigneur Ribéry. Monseigneur Ribéry, c'est lui qui a fait la préface du livre sur Edel Quinn par le cardinal Sunens. Alors, donc, elle se renseigne avec soin, et puis... lui, le délégué apostolique en Afrique, Monseigneur Ribéry, qui est missionnaire à l'apostolat laïque de la Légion de Marie, l'appuie, n'est-ce pas? Puis durant son séjour à l'annonciature de Dublin, lui, il a suivi de très près le développement de la Légion, puis ensuite en Afrique aussi. Il s'est renseigné avec soin, et il s'est trouvé en contact direct avec les légionnaires. Et ce Monseigneur connaît leur succès tant en Afrique occidentale qu'en Afrique du Sud. Alors c'est ce même Monseigneur Ribéry, qui va devenir plus tard internonce de Chine, qui indique aux évêques de l'Église de Chine plus tard la bouée de sauvetage qu'est la Légion de Marie lors du désarroi causé par, vous savez, cette marée montante du communisme en Chine. Alors, ceux qu'on appelle les sages du Concilium dans la Légion de Marie décident que Mademoiselle Quinn rejoigne la caravane, comme on dit, c'est l'expression des Sœurs Blanches d'Afrique, ça, la caravane des pères et des religieuses, les pères blancs, les Sœurs Blanches, une vingtaine, qui se rendent en Afrique orientale. Et vu l'impossibilité d'obtenir une cabine en classe touriste, on la loge en première classe, ce qui est bien pratique, parce que ça lui permet de recevoir les missionnaires dans sa chambre, dans son immense pièce, là, et ils peuvent se réunir pour la messe tous les jours, puis les prières en commun. Et alors, ça lui réjouit le cœur à Edel Quinn, son amour pour l'Eucharistie, réalise le programme clairement exprimé dans le manuel de la Légion de Marie, c'est-à-dire le légionnaire doit avoir une très grande dévotion pour l'Eucharistie. J'aime pas le mot dévotion pour l'Eucharistie. Moi, je trouve c'est un amour pour l'Eucharistie. On n'a pas une dévotion pour l'Eucharistie, il me semble. C'est au cœur de notre foi. Ça fait pas partie des dévotions, mais en tous les cas. Le départ de la Grande-Bretagne, donc, a eu lieu le 29 octobre 1936 et elle arrive à Mombasa un mois plus tard, le 23 novembre. Cette ville portuaire qui est située au niveau de la mer à l'équateur, si on peut dire, à la hauteur de l'équateur, c'est très très humide à longueur d'année. Alors, Edel n'y fait qu'une brève halte, c'est pas bon pour sa santé, mais elle voit la foule bigarrée. Et dès 16h dans l'après-midi, avec les sœurs de Lorette, si je me souviens bien, c'est les sœurs auxquelles appartenait Mère Teresa, bien, elle prend le train pour Nairobi. Le train remonte lentement de 50 jusqu'à 5500 pieds d'altitude sur une distance de seulement 518 kilomètres. Alors, c'est une randonnée absolument fantastique. Et dès son arrivée dans la capitale du Kenya, l'envoi, comme on dit, de la Légion, se fait dire, « Miss Quinn, vous ne connaissez pas le Kenya. La Légion peut faire du bon travail ailleurs. Ici, c'est pas possible. Ni nulle part dans l'Afrique de l'Est. » Pensez à toutes ces tribus. Et un vieux résident du Kenya de signaler, si le mélange de noir, brun et blanc pouvait se faire, nous n'aurions pas besoin d'églises séparées pour les différentes races. Mais l'évêque dit la même chose, mais sur un ton plus doux. Il lui dit, rappelez-vous, ma fille, que le Kenya, c'est pas l'Irlande, Alors, Edel Quinn est seule, puis elle est pas découragée, elle parle peu. Ses yeux, quand même, trahissent la réponse qui vient de son cœur. Parce que c'est un défi de taille qu'elle a devant elle. Elle dit, non, je ne connais pas Nairobi, mais je connais notre Seigneur et je connais sa Sainte Mère. Alors, en voyant ses yeux, certains sont amenés à se souvenir que la foi, ça soulève les montagnes. Et deux semaines après son arrivée au Kenya, bien, Edel Quinn a sa première réunion pour le recrutement de la Légion. Les Européens, les Gouanais, et bien, s'assis côte à côte. C'est à Nairobi que cette grande missionnaire laïque établit son port d'attache et de repli pendant la première partie de son séjour en Afrique de l'Est, puis aussi à l'étape finale de sa vie sur cette terre. C'est à Nairobi qu'un jour va naître le Senatus, c'est-à-dire le conseil régional de la Légion ou d'un pays déterminé, car elle va vraiment travailler d'arrache-pied pour établir la Légion de Marie, pour sanctifier les âmes. Lors des réunions pour fonder des présidiales tenues dans les lieux les plus divers, Edel Quinn donne toujours le même langage. Elle dit, « La Sainte Vierge nous a donné Jésus-Christ, le Sauveur et le Frère du monde entier. Nous ne pouvons pas être chrétiens sans vouloir le donner aux autres. La Sainte Vierge nous a donné Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être chrétiens sans vouloir le donner aux autres. » Nous sommes des porteurs de Jésus-Christ. Nous le portons. Comme Marie l'a porté et nous l'a donné, nous le portons pour le donner. Et parce qu'elle leur apporte le Christ et sa mère avec son sourire et ses yeux, puis le ton de sa voix. Mais ses auditeurs écoutent ses paroles et sont prêts à faire ce qu'elle leur dit. Et 4 mois après le début de sa mission, le 4 avril 1937, elle a 29 ans, malgré de nombreux obstacles. Et le grand rêve d'Edel devient de réalité. Dans la grande église sont groupés les différents présidias. Il y a des noirs, des bruns, des blancs. Les âmes n'ont ni couleur, ni race, ni langage. Et là où il y a une mère, Marie, il n'y a qu'une famille. Marie, la Sainte Vierge, a semé le grain par les mains d'Edel Quinn. Ce triomphe, c'est le sien. C'est celui de Marie. Mais Edel est rayonnante de joie et émue jusqu'au fond du cœur. Elle regarde chaque membre s'avancer pour renouveler le vœu de consécration. Quel est ce vœu? C'est « Je suis tout à vous, ô ma reine et ma mère, et tout ce que j'ai vous appartient. » C'est le premier grand rassemblement annuel de la Légion de Marie. Il a pour but de proclamer l'union et la dépendance envers la Mère de Dieu, Marie, et aussi de renouveler individuellement puis collectivement la déclaration de fidélité du légionnaire. Mademoiselle Edel Quinn commence donc des tournées d'envergure dans tout le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie au milieu de péripéties les plus étranges, mais aussi périlleuses, et sans oublier sa pensée qui est parfois chancelante. Elle subit d'ailleurs une grave attaque de malaria. Edel Quinn entreprend une expédition à l'île Maurice, finalement, située, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'océan Indien, à environ 1100 kilomètres de l'île de Madagascar, soit à plus de 1400 kilomètres du continent africain. Et c'est en janvier 1940, au début de la Deuxième Guerre mondiale. La mer est semée de mines à ce moment-là, hein, c'est la guerre. Un bateau sur deux sombre. Et de nuit, bien, tous les feux éteints, là, le bateau avance lentement sur ces eaux extrêmement dangereuses. Là. Mais Edel est parfaitement en paix. Hein, elle écrit « Quelle confiance sans bornes nous devons avoir dans l'amour de Dieu ». Alors, toute cette randonnée en mer, ça dure 2 semaines. Et dès son arrivée, bien, Edel Quinn éprouve une impression de chez soi. Elle a appris le français. Une délégation de bienvenue vient à bord la saluer. L'archevêque, Mgr Lean, un Irlandais comme elle, s'est joint au groupe. C'est une grande âme mariale, ce Mgr Lean, comme tant d'Irlandais. Et il entoure Edel Quinn d'une affection paternelle. Alors Edel remarque autour d'elle, on parle surtout français. Ça lui plaît beaucoup. Après un mois d'apostolat, elle a déjà établi 8 présidias qui sont en plein épanouissement. Et 7 mois après son arrivée, on compte 38 présidias dans l'île. C'est bien au-delà de toute espérance de Mgr Lean. Et lors de la fondation de la curia locale, l'évêque a désigné le plus jeune de ses prêtres comme directeur spirituel, c'est le père Margeo. Et par la suite, lui, il va devenir lui-même évêque de l'île Maurice. Il est élu parmi les cardinaux même en 1988, le 9 juin, en même temps que le cardinal Paul Grégoire, notre ancien archevêque à Montréal, cardinal Grégoire. Et puis, il revoit à Rome, Mgr Lean, sa sœur, accompagnée de son époux, qui est qui? Monsieur Clifford Lincoln, bien oui, vous vous souvenez? On se souvient par contre aussi que Madame Lincoln avait été frappée à mort par un automobile durant ce séjour-là. C'est triste. Bon, alors voici le portrait que le jeune père Margeau d'alors, à raison de sa fonction, le trace d'Edel Quinn à la fin du séjour de l'envoyer à l'île Maurice. Il écrit « Mademoiselle Quinn était une âme dont la simplicité était étonnante. Elle avait réalisé une très grande unité intérieure et semblait totalement abandonnée à la volonté de Dieu. Il semble, à en juger par certaines de ses réponses, que sa vie était centrée sur le saint sacrifice de la messe. Centrée sur le saint sacrifice de la messe, dont elle vivait. Elle ne faisait pas qu'y assister. Elle en vivait intensément. Et que la Sainte Vierge, ajoute le texte, tenait dans sa vie une place de choix. Elle communiait tous les jours, faisait sa méditation et se confessait régulièrement. Or, le président de la Légion, M. Roger Giraud, a déclaré, lui, de son côté, « Je l'ai questionné un jour pour connaître les secrets de sa vie spirituelle, et bien simplement, elle m'a répondu, la Sainte Communion, les Saints Évangiles, et le secret de Marie de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Ça constitue l'essentiel de ma vie religieuse. » C'est dire qu'une si grande âme qui accomplit de si grandes choses, dans une si frêle enveloppe, dit toujours M. Roger Giraud, n'est-elle pas la revanche éclatante de l'esprit sur la matière? Et ne reste-t-elle pas dans la tradition de Dieu qui fait éclater sa puissance dans la faiblesse des humbles? Alors, le retour sur le continent africain, Edel Quinn se dirige vers son nouveau territoire de mission, le Malawi, Nyasaland. Un missionnaire rencontré s'exclame, « Comment serait-il possible d'implanter la Légion de Marie au milieu de tant de problèmes matériels et économiques? » Mademoiselle Quinn a toujours cette réponse dans l'esprit et le cœur, « Pour Dieu, tout est possible. » Dans cette première mission, elle réussit à fonder la Légion de Marie. Alors, le territoire suivant est le plus dur, mais là, elle trouve la gentillesse merveilleuse des Pères Blancs et surtout d'un évêque québécois, Mgr Julien, originaire de Saint-Timothée dans le diocèse de Valleyfield. Et avec un corps qui devient de plus en plus faible, Edel Quinn travaille sur 3 fronts à la fois, et l'un est situé sur le haut plateau, puis les 2 autres à quelques 3000 pieds plus bas. Un missionnaire d'alors, le père Roland Vizina, père blanc, reçoit 2 fois à table Edel Quinn, puis elle dit au père lors du 2e repas qui est retardé par un appel aux malades, « Vous êtes bien chanceux de pouvoir manger, mais moi, Je ne peux pas. Et aussitôt, Monseigneur Julien, là, l'évêque québécois, entend parler de la maladie de Dill, puis il l'a fait transporter dans un couvent à Lilongwe, où il dit la messe pour elle dans une chambre adjacente. Il lui donne la Sainte Communion, puis elle dit, ce sera pas long, ce sera pas long. Oh, il sent que peut-être elle va mourir bientôt. Il voit ses yeux brillants, ses beaux yeux bleus d'Irlandaise. Ça peut plus cacher la vérité. Il voit sa voix affaiblie par la souffrance, l'épuisement, et Adèle le remercie de toutes ses bontés. Et l'évêque reste silencieux. Il est touché au cœur. Il est submergé par un sentiment d'admiration et de gratitude. Alors donc, Monseigneur Julien veut s'occuper d'elle. À la demande de Monseigneur Julien, un médecin a rédigé un bulletin médical en règle, de Ed O'Quinn. Le diagnostic est sévère. Tuberculose pulmonaire avancée. Régime? Repos complet au lit pour 6 mois au moins, sous contrôle médical et de préférence dans un climat frais, sec, tonique. Il n'y a pas à se leurrer. Le corps ne suit plus l'âme indomptable. Little Prime Sautière a vécu, comme dit le cardinal Sunens. Elle a 34 ans, on lui en donne presque le double. À Limbe, on a pris des photos, et puis elle les croit rassurant, ces photos-là. Alors, elle les glisse dans une lettre qu'elle écrit chaque semaine à sa famille, et la réponse vient de sa famille. « Mais tu es en train de mourir debout !» Et alors, Edel relate cette réaction, puis elle ajoute, « Je croyais que les photos étaient parfaites, même si j'étais à peine capable de me tenir sur mes jambes pendant qu'on les prenait. » Alors, l'unique solution, c'est d'obéir au médecin, puis d'adopter le repos. Après ce laps de temps, bien, elle obtient un certificat du médecin, disant qu'elle peut retourner à Nairobi. Et cet essai tourne mal. Edel Quinn se retrouve dans un hôpital du Zululand, et elle y passe 2 mois de plus d'invalidité, puis après 3 mois de vol et des étourdissements, parce qu'elle a le mal de l'air, comme on dit, elle atterrit à l'aéroport de Nairobi, complètement épuisée, mais radieuse. Et très vite, mais elle reprend son activité, c'est une énergique. Elle reprend son activité de légionnaire, elle travaille aussi dur que jamais tout autour de Nairobi pour commencer. À mesure que sa santé diminue, ben, chose étrange, c'est son rythme de travail qui s'accélère. Ça me fait penser à une de mes grandes amies, Madame Marie Dupont. Elle est comme ça. Et elle reçoit de Monseigneur Julien une longue lettre au sujet du travail fait dans son diocèse. La lettre de l'évêque lui montre bien l'importance, la nécessité de toujours travailler. Elle écrit dans son carnet « Travailler toute la journée. Les saints ne perdaient jamais de temps. » Les saints ne perdaient jamais de temps. Et cet autre mot d'elle, souffrir pour notre Seigneur, est ma plus grande joie. S'épuiser pour le Christ. S'épuiser pour le Christ. Et au début de mars 1944, à 36 ans, Edel Quinn décide de se rendre dans le diocèse de Kisumu, situé dans la partie ouest du Kenya, à 18 heures de train de Nairobi, afin de poursuivre là son travail d'extension, puis de contrôle aussi de la Légion de Marie. Elle espère revenir à Nairobi pour le 15 mai, mais son plan, c'est pas celui de Dieu. Edel n'en peut plus. Et cette fois, il n'y a pas moyen de ruser avec ses forces, qui sont rendues à rien du tout. Elle doit abandonner la lutte surhumaine. Elle est plus morte que vivante. Elle revient à Nairobi le 11 avril. Et puis, bien, un mois plus tard, c'est la fin. Le 12 mai, c'est l'anniversaire aujourd'hui, le 12 mai 1944, elle entre dans ce que j'appelle la grande lumière de Dieu, en disant 2 fois, Jésus, Jésus. Je vous ai parlé du cardinal Sulens, de l'excellente biographie qu'elle a écrite d'elle. Je vous rappelle, c'est paru en 1952, moi j'ai l'édition de 58, c'est pas d'aujourd'hui, il y a 40 ans. C'était réimprimé plusieurs fois, j'espère que c'est toujours réimprimé chez Desclée de Brouwer. Eh bien, Monseigneur Sunens, le cardinal Sunens écrit, « Edel Quinn est un modèle d'unité vécue, de foi plénière. Est-il étonnant que sa vie soit tout à la fois si mariale et si centrée sur le Christ? Le même élan qui la porte vers la mère la conduit au Fils. Elle aime Marie avec le cœur du Christ. Elle aime le Christ avec le cœur de Marie. » Quelques lignes de ses notes, d'ailleurs, livrent la clé de ce double et unique amour. « Réalisez que Marie nous aime, écrit-elle, parce que nous sommes l'héritage du Christ. Donnons-nous complètement à elle pour appartenir pleinement au Christ, pour être incessamment consumés. » Et ce grand amour de la croix alimente son culte de la messe, comme dit le cardinal. Le culte de la messe, qui est sa marque propre. Edel écrit, la messe, m'unir au Christ par les mains de Marie, à la gloire de la Trinité, en action de grâce pour tout et au nom des âmes. Avoir toujours à la messe l'intention spéciale de l'offrir et de l'entendre de la part de ces âmes qui ne le peuvent pas elles-mêmes, à cause de la maladie, de la distance, du travail ou de la guerre. Mettre cette intention entre les mains de Marie. La croix stimule aussi sa générosité, puis elle écrit « Que notre amour pour le Christ est pâle. Combien peu nous sommes prêts à agir et à nous sacrifier pour lui, même dans les petites choses, quand elles demandent un effort. Essayez de surmonter ceci par la pratique des petits sacrifices. Comme il y a peu de cœurs qui lui donnent pleine entrée. Il voudrait se répandre dans les âmes, et elles ne veulent pas. Même ses prêtres ont tant d'autres intérêts, qu'ils sont rares les prêtres qui lui appartiennent entièrement. Ne pourrions-nous tendre à vider nos cœurs de tout pour qu'il puisse les remplir complètement, y verser son amour, son miséricordieux amour. Que c'est beau. Que notre foi est belle. Hein? Et j'en profite, puisque je viens d'attaquer par Edel Quinn un petit peu, le pauvre prêtre, je voulais remercier l'abbé Roger Malot qui m'a beaucoup aidé à faire cette émission, lui qui s'intéresse tellement à la Légion de Marie.